France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme du 5-6 ce matin, un skipper polaire qui a pour ambition de faire le tour du pôle Nord, rencontre chaleureuse dans les chroniques littorales. Si vous êtes un adepte des fourneaux et des petits plats, réveillez-vous avec notre invité déjà de bouffe. Il fabrique des articles culinaires haut de gamme. Il sera avec nous à 6h moins le quart. Sourire, rivière de larmes ou tête à l'envers, question sur les émojis dans les petits bateaux à 6h moins 10. Dans la playlist du son des années 70, c'est Simandé. Leur nom ne vous dit peut-être sans doute rien, mais vous verrez, vous les avez déjà entendus. Et puis c'est la fête des mères dans Café Philo. On s'intéresse à cet amour si particulier qu'est l'amour filial.
France Inter.
Et on commence avec le journal de Sarah Ders. Bonjour Sarah.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Ils sont 10 suspects, 9 hommes et une femme entre 20 et 40 ans.
Et connus des services de police, mais pas pour le crime organisé, précise hier la procureure de Paris en conférence de presse, pour avoir enlevé près de Vierzon dans le Cher, puis séquestré un riche patron de la tech et sa femme, libérée par le GIGN, elle, après 48 heures. David Ballan, cofondateur de l'entreprise Ledger, qui a été hospitalisé pour une mutilation à la main. L'épilogue d'un enlèvement ultra violent avec demande de rançon en bitcoin, raconté par le général Ghislain Réti.
Cette affaire était extrêmement complexe, qui a nécessité la mobilisation de plus de 90 militaires du GIGN. Déjà, un enlèvement, c'est extrêmement complexe. Mais c'est une prise d'otage non localisée, que c'était sur deux sites différents. Donc avec une imbrication entre les deux affaires et une nécessité de coordination pour que l'action sur l'un n'ait pas éventuellement de répercussions sur l'autre affaire. Le but, c'est d'avoir des preuves de vie, d'avoir des garanties que si un quelque euro est versé, ce sera en contrepartie de la libération d'un ou de plusieurs otages, des capacités d'acquisition du renseignement humain, tout ce qui est filature, mais aussi technique. Je ne pourrais pas malheureusement les dévoiler, vous comprenez bien pourquoi ici, avec de nombreux rebondissements, je n'y reviendrai pas dessus, une première et une deuxième décalées quelques heures plus tard.
Le récit d'un commandant du GIGN après l'enlèvement de David Ballan. Une information judiciaire doit être ouverte ce matin. C'était un accord très attendu entre la France et l'Indonésie. Le condamné à mort Serge Atlaoui va être transféré le 4 février en France, annonce aujourd'hui Jakarta. Le Français âgé de 61 ans, condamné pour trafic de drogue, vit dans le couloir de la mort depuis 17 ans.
Aux États-Unis, les défenseurs du climat contre-attaquent contre Donald Trump.
Celui qui n'a pas tardé à prendre des mesures à peine investies contre la protection de la planète, lui qui est taxé d'être un climato-sceptique, en témoigne par exemple son décret sur le retrait des États-Unis de l'accord de Paris pour le climat. Los Angeles en proie aux flammes depuis début janvier, victime du réchauffement climatique selon le gouverneur démocrate de Californie, qui compte le rappeler aujourd'hui au président américain qui a choisi pour son premier déplacement cet État. Alors Sébastien Paour, quels sont les contre-pouvoir outre-Atlantique en matière de climat.
Le premier sur cette liste, c'est l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Le milliardaire est à la fois un opposant à Trump et envoyé spécial des Nations Unies sur le climat. Il a dit hier qu'il compenserait à l'ONU Climat tout ce que le gouvernement fédéral américain ne paierait pas. L'ONU Climat, c'est l'organisme qui organise les COP, les conférences sur le climat, et gère l'accord de Paris, signé il y a 10 ans par quasi tous les pays du monde. Pour l'instant, Trump n'a annoncé le retrait des États-Unis que de l'accord de Paris. Autre contre-pouvoir, la Californie, 5e puissance mondiale, l'État le plus peuplé du pays, cherche à imposer ses propres normes en matière d'émissions des véhicules dès l'an prochain, avec l'objectif d'une interdiction des moteurs thermiques d'ici 10 ans. Enfin, il y a les figures américaines de la lutte contre le réchauffement qui peuvent se faire entendre. L'ancien vice-président Al Gore, prix Nobel de la paix en 2007, et John Kerry, envoyé spécial de Joe Biden sur le sujet. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Donald Trump qui s'est aussi exprimé hier au Forum économique de Davos en Suisse, mais à distance, depuis la Maison-Blanche, messages ou menaces adressées aux acteurs économiques, aux grands patrons, venez produire en Amérique où vous devrez payer des droits de douane.
Et en France, que va-t-il rester de la circulaire Valls ?
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, durcit la régularisation des personnes sans papier. Dans une circulaire envoyée au préfet, Bruno Retailleau préconise désormais au moins 7 ans de présence en France pour être régularisé et appelle les préfets à plus de fermeté. il l'annoncera officiellement aujourd'hui lors d'un déplacement dans les Yvelines. L'homme au hachoir, l'auteur de l'attaque en 2020 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, condamné hier à 30 ans de prison, le Pakistanais qui a grièvement blessé deux personnes. La Cour d'assises spéciale des mineurs de Paris a assorti sa peine d'une interdiction définitive du territoire français. À Marseille, le trafic de bus interrompu hier soir. Un chauffeur de bus a été agressé violemment hier à coups de batte de baseball par un voyageur. Ses collègues ont exercé leur droit de retrait.
À l'Assemblée nationale hier, 5 textes examinés, 5 textes adoptés.
Carton plein pour les socialistes. Ils avaient une journée, comme chaque groupe, pour défendre leurs textes. Parmi eux, notamment, le prix des biens de première nécessité plafonnés en Outre-mer ou encore le repas à 1 euro généralisé à tous les étudiants. Et Claire Flochel, les macronistes n'ont pas voulu voter contre les textes socialistes donnant-donnant.
Ceux qui soutiennent le gouvernement, à savoir Ensemble pour la République, les démocrates, Horizon et la droite républicaine, s'abstiennent très majoritairement à chaque vote. Alors, est-ce une consigne ? Un député macroniste l'avoue à demi-mot. Cela fait partie du deal global, dit-il, faisant référence aux négociations qui se poursuivent entre le PS et le gouvernement sur le budget. Pas question d'interférer sur leur bonne tenue, en somme. On est en position de force, explique un parlementaire socialiste. Les députés ont bien compris que s'il y avait des incidents, cela aurait des conséquences. Certains au PS mettent ainsi une possible censure dans la balance. Mais pour cet autre socialiste, le premier facteur de l'abstention du socle commun, c'est son absence. En effet, en dehors des députés de gauche, l'hémicycle est quasiment vide. Ça fait quelques niches qu'on observe cela. Les députés du camp présidentiel n'ont plus la volonté de se battre pour leur gouvernement. Ils ont perdu la foi. Voilà comment l'analyse cet élu. Il y a du monde quand il y a du spectacle. Lâche un macroniste l'air dépité, donc autant rester chez soi, au moins on ne les voit pas fanfaronner.
Claire Flochel pour France Inter. Et vous pouvez à nouveau payer depuis hier vos courses au supermarché grâce au ticket restaurant. Le texte est entré en vigueur hier. Riz, pâte, beurre, farine, huile, le tout jusqu'à 25 euros par jour.
Et pour son retour à Paris, la star de basket française régale ses fans.
Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont remporté hier soir leur premier match de NBA des deux rencontres à l'Accor Arena face aux Pacers de l'Indiana, 140-110. À lui seul, il a inscrit 30 points. Prochain et dernier match samedi. Wemby, qui ne sera pas titulaire pour le All-Star Game qui aura lieu le 16 février à San Francisco. Il devra attendre le choix des remplaçants. LeBron James, lui, est titulaire pour son 21e match des étoiles. Et puis, la deuxième vague d'arrivée du Vendée Globe, c'était cette nuit. 10 jours après Charlie Dalin, le 4e skipper, Jérémy Beyou, est arrivé à près de 2h du matin au Sable d'Olonne. Sa remontée du chenal est prévue à midi.
Et vous, votre prochain journal est prévu à 5h30. Sarah, c'était votre journal,
à
Sarah Ders. Il est 5h08.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Ça va souffler aujourd'hui, Sébastien Léas.
Nous sommes en marge de la violente tempête Eowyn qui va circuler entre l'Irlande et l'Écosse, mais le vent sera tout de même bien fort aujourd'hui sur la majeure partie du pays, jusqu'à 60 à 80 km par heure dans les terres et des pointes à plus de 100 près des côtes de la Manche. De fortes pluies vont aussi arroser le nord-ouest, d'abord la Bretagne et la Normandie, puis rapidement les pays de la Loire et les Hauts-de-France en matinée. Cet après-midi, cette perturbation pluvieuse s'étendra entre les côtes de la Manche, les Ardennes, l'Île-de-France, le Loiret et la Vendée. À l'avant de ces pluies, les nuages seront de plus en plus épais et denses entre l'Aquitaine, le Grand Est, le Jura et le Lyonnais. Ce voile nuageux sera doublé d'entrées maritimes autour du golfe du Lion, alors que l'est de la Provence et la Corse auront une journée ensoleillée. Les températures maximales sont nettement au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, il fera 8 degrés à Metz et Dijon, 10 degrés à Colmar, Grenoble et Rouen, 11 degrés à Paris, 12 degrés à Lorient, Caen et Nevers. On attend 13 degrés à La Rochelle, 14 degrés à Montpellier, 15 degrés à Toulon, 16 à Ajaccio, jusqu'à 20 degrés au pied des Pyrénées.
Sébastien Léas de Météo France.
France Inter. Marion Lourd, le 5-6.
5h09 à suivre sur Inter, un voilier sur l'océan glacé. Nous serons avec un skipper qui n'a pas froid aux yeux dans les chroniques littorales. Aux États-Unis, les femmes ont voté démocrate et les hommes républicains à la dernière présidentielle. Ça s'appelle le gender gap, analyse du phénomène dans la chronique d'où ça sort. Et puis, Charline Van Honecker explose les faits, ou plutôt elle explose Elon Musk, patron de X et Tesla, lieutenant de Donald Trump, ça sera à 5h25. Dans un instant, les chroniques littorales, mais d'abord la musique avec cinq frères dont le nom et la musique soul font penser au vieux sud des États-Unis. Ils viennent en fait du nord de la France. Les Lowland Brothers chantent « For a while ». Wild des Lowland Brothers, un titre de la playlist France Inter. Ils seront en concert le 15 février à Saint-Nazaire et le 8 avril à Paris. On va tout au nord dans les chroniques littorales à 5h13. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Et ce matin, José-Manuel, vous recevez un skipper du froid.
En la personne, Marion, de Olivier Pitras. Olivier Pitras est un skipper français, mais attention, un skipper polaire. Il a été le premier français, en 1999, à avoir traversé, avec son bateau à voile bien évidemment, l'océan glacial par le passage du Nord-Ouest. Bonjour Olivier Pitras.
Bonjour José-Emmanuel.
Olivier Pitras, skipper des glaces, on sort de l'ordinaire.
Là, ça ne s'en vient pas. Hein. J'ai fait mes premiers pas en régate, en one-ton, je faisais du one-ton à l'époque. Et puis j'étais fasciné par le large, donc je suis parti à 23 ans de France. Le premier grand voyage où j'ai vu mes premiers glaçons sur l'eau, c'est la Patagonie.
Oui, parce que vous êtes passé par l'Amazonie, la Terre de Feu, l'Alaska. Et l'Alaska, ça a été la révélation.
Déjà la Patagonie.
Déjà la Patagonie.
Ouais. Là, ça y est, j'étais...
Aimez bien là où il y a de la glace quand même.
Ben, j'aime bien. Là, par exemple, ce soir, quand on va se quitter, je ne vais pas dormir dans un congélateur. Donc, mais par contre, ces paysages de montagnes et de fjords, avec de la glace, c'est fascinant. C'est comme si on était au début de la création. Je trouve que là, il y a une dimension qui m'émeut en permanence, et même maintenant, et je peux le dire, mais les fjords et ces univers-là sont devenus indispensables à mon équilibre.
Vous êtes le digne héritier de Pythéas, ce grec de Marseille qui était parti sur les côtes scandinaves il y a fort longtemps. Vous, le Provençal, idem, vous partez sur les côtes des glaces.
C'est ça. Oui, mais c'est vrai que là, pour ce qui est de l'Arctique... Alors, pourquoi l'Arctique? C'est que, c'est évidemment un océan, donc c'est plus intéressant en termes de navigation...
Mais attendez, naviguer en Arctique quand même, d'abord, il faut avoir le bon bateau.
Il faut avoir le bon bateau.
La bonne coque.
Et puis surtout, je pense, ou en tout cas en ce qui me concerne, il faut avoir un cumul d'expériences. Moi, je me faisais traiter de fou en Alaska, parce que l'été, au beau milieu de la soirée, je quittais les copains, je leur disais, je vais au glacier, il était 1h du matin. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire la nuit? En fait, moi, j'avais besoin, quand je voulais faire un grand passage, ou éventuellement les deux, j'avais besoin de m'entraîner. Là, c'était un petit bateau de 10 mètres à l'époque, et j'allais m'entraîner dans la glace et la nuit.
Et cerise sur le gâteau, vous habitez en Norvège. Tout au nord de la Norvège, parce que là-bas, vous y avez, on peut dire, une société de voyage polaire, mais respectueuse, bien sûr, de l'environnement.
De l'environnement, oui. Mais en fait, j'ai monté cette boîte à la suite de ma première expédition, parce que tous les gens que je rencontrais dans les séances de dédicaces ou dans les confs, ils me disaient, quand c'est que tu nous amènes là-haut? J'avais à cœur de partager avec ma clientèle. Donc en fait, c'était, alors pas une école de croisière, parce que les gens qui veulent apprendre de la voile, ils ne viennent pas chez moi, mais par contre, c'était participatif. C'est-à-dire que les gens étaient des équipières et des équipiers. Et là, on a fait
toujours sur voilier.
Ouais, et puis alors on a fait vraiment des belles aventures. C'est-à-dire que moi j'avais toutes les passions qui me traversaient l'esprit. J'y allais, et comme ça on a pu aller sur le parc national du nord-est du Groenland. On a pu même repartir sur les traces de la deuxième expédition du Fram en partenariat avec le musée Fram à Oslo. On a fait le passage du nord-ouest de nouveau, un grand tour d'un an autour de l'Amérique du Nord. C'était une enquête de terrain pendant l'année polaire internationale.
Vous êtes l'homme au-delà du cercle polaire.
Ben c'est ça. Et ça devient de plus en plus difficile pour moi de repasser le cercle polaire.
Oui, dans l'autre sens.
Dans l'autre sens.
Et vous avez un projet fou, c'est le tour du pôle Nord.
Oui, alors ça me tient à cœur, ça me taraude depuis de nombreuses années en fait.
Vous avez le bateau?
Alors, j'ai pas le bateau, j'ai même pas encore le financement. C'est un projet qui est vraiment assez balbutiement. Mais en revanche, j'ai la ferme intention de réaliser ce projet. Pourquoi? Parce que j'ai l'intime conviction qu'on peut faire sur un bateau de course, un trimaran, pour avoir des capacités d'emport importantes également, qu'on peut faire le tour du pôle Nord à la voile, sans escale, sans assistance.
On va vous suivre, Olivier Pitras.
Ben, j'espère bien. C'est un projet de fou, mais évidemment, c'est un projet qui me semble réalisable. Par contre, c'est incertain puisque ça n'a jamais été fait.
Merci, Olivier Pitras. Un site internet 69nord.com. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6. Sur France Inter.
À la une de la presse ce matin, des actualités très variées. Le Parisien revient sur cet incroyable enlèvement d'un génie de la crypto-monnaie hier. David Ballan, cofondateur de la licorne Ledger, 10 malfaiteurs présumés arrêtés. Il réclamait une rançon de 10 millions d'euros. La politique commerciale de Trump, ses menaces et ses promesses intéressent aussi vos journaux ce matin. À Davos, Trump tétanise les chefs d'entreprise. C'est le titre de une du Figaro Echo. Trump somme les entreprises européennes de choisir leur camp, résume de leur côté les Échos. Le président des États-Unis conseille en effet au groupe de venir fabriquer dans son pays pour bénéficier d'une fiscalité douce. Il met en garde ceux qui n'obéiront pas en leur promettant l'imposition de lourds tarifs douaniers. Sur la même une, on apprend d'ailleurs que le groupe automobile Stellantis se relance d'ailleurs aux États-Unis avec un plan d'investissement de 5 milliards de dollars dans ses usines. Et puis de la politique encore dans vos journaux, le Figaro s'intéresse à la méthode Bayrou pour, je cite, anesthésier les oppositions, c'est l'analyse du quotidien. Le Premier ministre, qui limite ses sorties publiques, laisse les membres de son gouvernement en première ligne et privilégie la négociation en coulisses. Discret également, Édouard Philippe, l'ex-premier ministre et déjà candidat à la présidentielle en une de l'opinion. Il est le personnage principal de la caricature de CAQ, habillé en surfeur. Une congénère s'adresse à lui. « On ne te voit jamais dans l'eau, en fait. » Lui est assis sur le sable et résume sa position. « J'attends la vague. » À côté, le titre de l'article est explicite. « Présidentielle, Philippe en vol stationnaire. Et puis lui ne regrette pas la politique apparemment. Jean Castex, ex-premier ministre, est en une du Figaro Écho. Citation « Je suis très bien » à la RATP dont il est devenu patron. Et pourtant en une, le journal Luma lui montre un bus et pointe, je cite, « les ateliers toxiques de la RATP ». Selon le quotidien, les agents de maintenance de la régie sont exposés à des pollutions chimiques et cancérogènes. Et puis au chapitre « Transport », plus gai, bientôt des nouveaux trains de nuit. Les adeptes savent que ces rames ne sont pas toujours dans un état impeccable. Le cahier entreprise des Échos nous apprend que l'État prépare sa première commande depuis 45 ans, 180 voitures couchettes, ceux qui même pourront désormais vraiment prendre le train. 5h20, dans Zoom Zoom Zen, hier, l'équipe de Mathieu Noël était aux commandes et il était question des dernières élections américaines où on a constaté que les femmes votent démocrates et les hommes républicains. Cette différence de genre s'appelle le gender gap, mais d'où ça sort Cyril Lacarrière ?
Une précision pour commencer. Quand vous entendez cette notion de gender gap, le plus souvent, c'est pour parler de l'écart de salaire entre un homme et une femme pour un même poste. Eh bien, ce gender gap, c'est une notion fluide, car en plus de faire une référence à des salaires, plus surprenant, elle sert aussi à décrypter des comportements électoraux. Et c'est aux États-Unis qu'on l'a constaté récemment. D'ailleurs, c'est aux États-Unis qu'on a d'abord observé ce voting gender gap, c'est son petit nom. C'est un concept qui a été forgé par une des plus grandes associations féministes du pays, la National Organization of Women, dite NOW, si vous voulez briller lors des dîners en ville. Et ce terme apparaît en fait lors de l'élection de Ronald Reagan à la Maison-Blanche en 1980. On remarque à cette époque que les femmes ont tendance à voter plus démocrate que les hommes. Une différence que la NOW va utiliser pour mettre en avant le fait que les femmes, quand elles votent, seraient des citoyennes plus réfléchies et plus humanistes que les hommes.
Et maintenant, Cyril, petit retour en arrière.
Oui, car si on en croit notre invité, vous, Anya Durovitch, ce voting gender gap a connu plusieurs étapes importantes. Je vous la fais courte, car vous allez le détailler mieux que moi. L'obtention du droit de vote pour les femmes, et elles votent plutôt du côté conservateur à ce moment-là. Puis la période de ce qu'on appelle le modern gender gap, dans les années 80, les femmes commencent à voter à gauche, et puis le radical right gender gap. Ouais. Ça, c'est théorisé par la chercheuse américaine Terry Givens en 2004. Et qu'est-ce que c'est que ce radical right gender gap ? Eh bien, que les femmes soutiennent moins les partis de droite radicale et populiste que les hommes. Alors, qu'est-ce que ce voting gender gap dit de nos sociétés actuelles ? Les femmes sont-elles vraiment plus progressistes que les hommes ? Comment vous l'expliquez ?
Réponse dans Zoom Zoom Zen, le replay sur le site internet de France Inter. Et à 16h, toute l'équipe Zoom Zoomera sur le Quiet Hiring, nouvelle stratégie pour recruter des employés performants. 5h22, dans quelques minutes, Charline Vanhoenacker explose les faits sur France Inter. Mais d'abord, extrait de la bande originale de la série Arcane, qui a sorti sa deuxième saison en fin d'année dernière. Elle signe le grand retour du chanteur belge Stromae, en collaboration avec l'artiste française Pomme, ma meilleure ennemie sur Inter.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse quand il se cache? Dans l'espace, c'est quelle émotion, la haine
Ma meilleure ennemie par Stromae et Pomme, un titre sorti l'année dernière.
France Inter.
À 5h25, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker et retour sur le discours d'investiture de Donald Trump mardi dernier. Pour ceux qui l'auraient raté, s'il y en a, pas de panique. Si vous étiez sur X, ex-Twitter, les 6 derniers mois, vous avez déjà l'essentiel.
Intérieur du Capitole, ambiance 19e siècle, parce que dehors il fait trop froid. Pour un type qui voulait racheter le Groenland la semaine dernière, petit peu frileux. Pour entrer dans le bâtiment, contrôle de sécurité drastique, fallait laisser à l'entrée son sac, son manteau et son cerveau. Oui, parce que réunir des gens qui gobent n'importe quoi et mettre les village people à fond, aux États-Unis, c'est une cérémonie d'investiture. En France, on appelle ça une soirée trop arrosée, quand même. Comment peut-on croire que les électeurs de Trump pichent quoi que ce soit à un programme économique, alors qu'ils sont déjà pas en mesure de comprendre les paroles de YMCA? Alors, juste avant la cérémonie, la tradition veut que le président entrant va boire le thé à la Maison Blanche avec le sortant. Ce qui se fait aussi en Russie, mais là, il n'y en a qu'un des deux qui ressort vivant. Alors, on se demande tous ce que Biden et Trump se sont dit pendant leur dernière entrevue. Trump a dû insulter Biden et Biden a dû se demander pourquoi Bernie Sanders était aussi virulent à son égard. Allez, maintenant, le discours d'investiture. Pour ceux qui l'auraient loupé, pas de panique. Si vous étiez sur Twitter les 6 derniers mois, vous avez déjà l'essentiel. Alors, on ne pourra plus choisir son genre. Ce sera homme ou femme. Mais pour compenser, on pourra choisir sa bagnole. Essence ou diesel. Là, vous pouvez transitionner. Ouais. Et c'est rassurant pour la communauté cuir, ça. Relativiser un peu, parce que les voitures non plus, elles peuvent pas être hybrides. Et voilà. Voilà. Sinon, ce qui se tente à l'état civil, déclarez-vous comme bagnole. On sait jamais. En tout cas, là, vous serez respecté. Ensuite, Trump a dit qu'il allait rendre leur pouvoir d'achat aux Américains. Alors, il a oublié de préciser que les Américains, c'était Musk, Zuckerberg et Bezos. Enfin, on les a vus au premier rang, donc on a pigé. Chaque milliardaire présent hier a financé la cérémonie à hauteur de 1 million de dollars. C'est la chronique humoristique la mieux payée de l'histoire. Il dit qu'il va rétablir la sécurité dans tout le pays, mais sa première mesure, c'est de libérer les émeutiers qui sont en prison. Bon. Et tout ce qu'il a annoncé va aller très très vite. Là, les expulsions d'étrangers, elles ont déjà commencé. Les premières à partir, c'est Orban et Meloni, ils ont pris l'avion hier soir. C'était fou de voir tous les puissants de ce monde réunis au même endroit, Bezos, Obama, Clinton, Zuckerberg, Éric Zemmour. Attendez, il a quand même fait 0,7% en législatif, c'est pas rien. Hein. C'est beau de voir tous ces dirigeants d'extrême droite réunis autour des valeurs du chacun pour soi. Jamais l'individualisme n'aura autant rassemblé. Et ça, c'est fort. Et au milieu, y avait Bernard Arnault. Lui aussi, il est autour de 0,7%. Mais lui, c'est son taux d'imposition. Et enfin, cette annonce, planter la bannière étoilée sur Mars. Heureusement que Mars n'est pas peuplé par des gens comme eux. Sinon, ils sont mal barrés pour aller planter le drapeau. Vous avez vu l'effet que ça a fait à Elon Musk, ça? Ça l'a tellement excité qu'il a fait un salut nazi. Ah, très explicite, c'est pas un coucou nazi. Il y a mis une de ses vigueurs. Il a eu, je dirais, une véritable érection du bras droit. Vraiment. Alors, maladresse, disent certains. Ok. C'est peut-être pas un salut nazi, c'est peut-être un salut pour saluer les nazis. Je sais pas. Et alors, dans ce cas, vraiment, je fais amende honorable. Et là, je regrette d'avoir traité Elon Musk de gros connard. J'aurais dû dire gros connard de fasciste.
Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi à 10h moins le quart sur Inter et demain, samedi, à 19h20 pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
France Inter, 10h, Christine Masson et Laurent Delmas.
Ce samedi, avec un beau lieu d'apprentissage, l'école, et une famille qui ne sait plus communiquer.
Invité Claire Simon pour apprendre, et Delphine et Muriel Coulin pour jouer avec le feu.
Seulement la cheminée tirait correctement, on pourrait faire un bon feu.
Pour s'enfumer comme hier soir.
Il y avait du vent.
Mon cul, le vent. C'est une cheminée à la con pour la finale.
Et notre hommage à Bertrand Blier qui nous a quittés cette semaine.
On aura tout vu. Tous les samedis à 10h sur Inter.
5h28 sur France Inter, devinez qui vient de me rejoindre, c'est Ali Badou.
Mais
qui
oui, c'est moi.
Arrive en studio pour un avant-goût du 6-9, bonjour Ali.
Bonjour Marion, avec au programme à 6h20, un premier rendez-vous autour de Donald Trump contre le climat. La formulation est radicale, je le sais, mais de nombreuses questions à poser à votre invité Patrice Geoffron, qui est professeur d'économie à Paris-Dauphine. Et après la sortie des accords de Paris décidés par le président américain à 7h40, 2035, l'Europe peut-elle rattraper son retard en matière d'intelligence artificielle? Ce sera le sujet du débat éco entre Dominique Seux et Thomas Porcher. Et enfin, à 8h20, l'invité du grand entretien sera le député Picardie Debout, François Ruffin. Nos questions et les vôtres, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 dès 7h ou sur l'application
France Inter.
Évidemment.
Merci Ali, à tout à l'heure. France Inter, il est 5h30. Un nouveau journal avec Sarah Ders. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Des bénévoles à la rencontre des sans-abri dans les rues de Paris, de Dijon, de Nancy ou de Marseille.
C'est la nuit de la solidarité dans une quarantaine de villes de France pour mieux comprendre, pour aider et recenser tous les visages des personnes vivant à la rue. À Marseille, ce sont près d'un millier de bénévoles qui ont quadrillé le centre-ville. Reportage hier soir de France Inter de Mathilde Vinceneux.
Alors là, on va sillonner trottoir par trottoir.
Les bénévoles avancent par petits groupes avec leur chasuble bleu et un plan du quartier.
On va aller voir le monsieur qui est en face.
Au coin d'une rue, un monsieur de 48 ans, casquette et lunettes noires, il dort dehors depuis 2 ans. Les bénévoles lui posent des questions.
Vous avez un endroit pour stocker les
affaires ? Je viens de retrouver un aujourd'hui. De temps en temps, je me fais voler, mais c'est pas grave.
Vous arrivez à trouver des douches ?
Est-ce qu'il sait où se doucher, où se soigner, où charger son téléphone ? Toutes ces réponses sont notées par les bénévoles dans un questionnaire en ligne anonyme. Il y a beaucoup à améliorer, affirme Guillaume, qui attend une maraude.
Moi, j'ai 35 ans. Depuis 2009, je vis à la rue. On est obligé de vagabonder pour trouver quelque chose à manger. Déjà, qu'ils mettent plus de foyers pour SDF, parce qu'il n'y a pas des masses. Quand on appelle le 115, c'est toujours des refoulements. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Parfois, on se sent un peu délaissé.
Et c'est justement pour mieux accompagner les sans-abri que la ville veut recenser leurs besoins, le maire de Marseille, Benoît Payan.
Ça permet de comprendre qui sont les personnes qui sont à la rue, comment, depuis combien de temps, leur âge, leur état de santé, ce qu'on peut faire pour ces personnes. Ça nous permet d'adapter tous les dispositifs.
Lors de la précédente édition de cette nuit de la solidarité, les bénévoles avaient pu échanger avec plus de 400 sans-abri en une soirée.
Un reportage à Marseille de Mathilde Vinceneux pour France Inter. Marseille, où un chauffeur de bus a subi hier une violente agression. Il a été attaqué à coups de batte de baseball par un voyageur. Le conducteur lui avait demandé d'éteindre sa cigarette. Ses collègues en soutien ont exercé leur droit de retrait. Trafic des bus et quelques tramways interrompus hier dans la cité phocéenne.
Ils sont 10 suspects actuellement en garde à vue.
9 hommes et une femme entre 20 et 40 ans et connus des services de police, mais pas pour le crime organisé, précise hier la procureure de Paris en conférence de presse, pour avoir enlevé près de Vierzon dans le Cher, puis séquestré David Ballan, un riche patron de la tech, et sa femme, libérée depuis par le GIGN, elle après 48 heures. L'épilogue d'un enlèvement ultra-violent avec demande de rançon en bitcoin, Emmanuel Leclerc.
La demande de rançon est arrivée sur l'écran de l'associé de David Ballan. Plusieurs millions d'euros contre la vie de son ami et collègue. Vidéo à l'appui d'un doigt sectionné. Très rapidement, c'est un négociateur du GIGN qui prend le relais avec l'appui de l'unité nationale cyber. Il est décidé de payer une partie de la rançon. Dans les heures qui suivent, une première interpellation a lieu près de Bourges. Une voiture et un conducteur suffisamment suspects pour déclencher l'analyse des données numériques et GPS du véhicule, avec d'autres éléments technologiques non dévoilés. Hier soir, David Ballan est localisé dans une maison à la campagne louée par les ravisseurs. L'assaut du GIGN surprend les gardiens du jeune patron, mais il reste à récupérer sa compagne. Là encore, des heures de surveillance à croiser des données numériques pour trouver la trace de suspects recrutés dans l'Essonne. C'est là que les gendarmes retrouvent Amandine ligotée en état de choc, mais pas blessée physiquement, dans une camionnette. Les bitcoins déjà versés pour leur libération ont été tracés, puis gelés et saisis par les cyberprocureurs en charge de l'affaire.
Selon le parquet de Paris, une information judiciaire doit être ouverte ce matin. Alerte rouge sur toute l'île d'Irlande et sur une partie de l'Écosse. Un niveau rare pour une alerte météo, c'est la tempête Éowyn qui approche. On annonce des rafales pouvant dépasser les 130 km/h et des vents forts arrivent aussi sur le nord-ouest de la France.
3 jours qu'il est président des États-Unis et déjà un premier revers en justice pour Donald Trump.
L'un de ses décrets vient d'être bloqué par un juge fédéral, celui qui remet remettent en question le droit du sol. Donald Trump qui a annoncé faire appel de cette suspension. Donald Trump qui a frénétiquement signé d'autres décrets hier. Il a gracié 23 personnes poursuivies pour avoir participé à des marches contre l'avortement. Il réclame aussi la déclassification des archives sur 3 assassinats. John F. Kennedy et son frère Robert et celui de Martin Luther King. Retour en France où le Sénat dominé par la droite a adopté hier sans surprise une copie du budget dénoncé par la gauche. Ce projet de budget doit maintenant passer en commission mixte paritaire où 7 sénateurs et 7 députés seront chargés de se mettre d'accord sur un texte. Un suspect identifié et activement recherché après la mort d'un couple à Saint-Martin au Chartrain dans le Calvados. Il s'agit d'un habitant de la commune qui a pris la fuite à bord d'un véhicule. Sa plaque d'immatriculation a été détectée par les enquêteurs. Et puis à l'Open d'Australie, Novak Djokovic, 7e mondial, joue aujourd'hui sa place en finale face au numéro 2 mondial, Alexander Zverev. Et ce soir, le duel entre le premier mondial, Yannick Sinner et Ben Shelton, 20e mondial.
C'était le journal de Sarah Ders. Bonne journée Sarah, restez bien à l'abri ce vendredi, car le temps sera perturbé et venteux sur la moitié nord. La faute à cette tempête qui circule sur l'Irlande et la Grande-Bretagne. Beaucoup de pluie attendue sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Basse-Normandie. Plus au sud, c'est plus sec, mais souvent voilé. Quelques gouttes pourraient aussi arriver dans les Cévennes en fin de journée. Sur la moitié nord, le vent soufflera jusqu'à 80 km/h en rafale. Il faiblira en soirée. Vent du sud fort aussi sur la chaîne pyrénéenne jusqu'à 100 km/h dans la nuit. 60 km/h attendus aussi sur le Lauragais et dans la vallée du Rhône. Et des températures contrastées. Prévoyez 0 à 8 degrés le matin, 8 à 20 degrés l'après-midi, 8 à Strasbourg, 9 à Dijon, 10 à Nancy et Lille, 11 à Paris, Tours et Cherbourg, 12 à Brest et Clermont-Ferrand, 13 à Perpignan, Toulouse et Limoges, 14 à Nice, 15 à Marseille et Bordeaux, 16 à Ajaccio et 20 à Biarritz.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de saluer Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, dans votre playlist, un groupe qui renaît.
Oui, un groupe dont tout le monde a entendu les sons mais dont on ne connaît pas bien le nom, c'est Simandé, la colombe qui reprend son vol avec un nouvel album, Renaissance. Sometimes I wonder if it's all been in vain. It seems nothing matters. Everybody chasing fame with no. Voilà, tout le monde court après une gloire sans message. Pour que les jeunes s'accrochent, vous prenez tout ce que vous pouvez. C'est le message inquiet d'un groupe de vétérans qui renaît de ses cendres. Les Anglais de Simandé sont de retour plus de 50 ans après leur début. Vous ne savez pas de qui je parle,
pas
Marion
vraiment.
Et bien pourtant, De La Soul, les Fugees et bien d'autres se sont servis de leur son unique. Le groupe de soul funk anglais des années 70 est devenu une énorme référence pour les collectionneurs de vinyle. Écoutez ça par exemple, ça devrait vous rappeler quelqu'un. Et oui, Claude MC l'a toujours dit, son bouge de là vient de là.
Bouge de là. The Message de Simandé, ça c'était dans leur premier album paru en 1972.
Et deux albums plus tard, malgré une tournée américaine avec Al Green, le succès n'est pas au rendez-vous quand ils reviennent en Angleterre. Eh bien, le groupe décide de faire une pause en 74 et la pause va durer 40 ans. Ils sont reformés en 2014 pour un concert et il a fallu 10 ans pour que le groupe accouche d'un nouvel album. Enfin, le voilà. Une bonne partie des membres originaux sont encore en vie, ils sont toujours aussi bons et on croise quelques invités de marque, dont la chanteuse Céleste.
Autre extrait du nouvel album de Simandé, le groupe a fait aussi l'objet d'un documentaire.
Oui, qui s'appelle Getting It Back, The Story of Simandé, qui fait la tournée des festivals et qui montre bien leur histoire, celle d'une communauté caribéenne à Londres et puis leur impact sur plusieurs générations de musiciens. Alors je voudrais vous faire écouter la suite de ce qu'on a entendu au tout début. C'est un très très long morceau, c'est le premier titre du nouvel album. Il y a toujours un message chez Simandé, une critique. Quand l'individualisme a remplacé le sens de la famille, Chasing an Empty Dream. The young girl of rage.
Monday, l'album Renaissance sortira vendredi prochain, 31 janvier.
Une tournée sera bientôt annoncée, je ne peux pas vous donner encore la date, mais il y aura un concert à Paris d'ici la fin 2025.
Bon, on attend ça. Merci Mathieu, on vous retrouve ce soir à 21h.
Et je remets le son, comme tous les vendredis, avec les sorties de la semaine, Jungle, Eloi, Hoptala, et puis je vous parlerai de quelques salles de concert mythiques.
Comme l'auditorium de Radio France.
Eh oui.
Où vous serez samedi soir pour nous faire vivre en direct le concert de Georgia Smith avec l'orchestre philharmonique de Radio France.
S'il vous plaît, très bon hyper week-end à tous.
Mais merci. À 5h41 sur France Inter, le Zoom. Vous connaissez les parcs naturels régionaux, les zones Natura 2000, mais saviez-vous que vous aussi, vous pouvez créer votre réserve naturelle? C'est ce qu'on appelle une ORE pour obligation réelle environnementale, un dispositif juridique mal connu, mais qui permet à n'importe quel propriétaire de protéger pour longtemps son terrain de toute atteinte portée à la biodiversité. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Le phénomène reste marginal, mais tout de même, de plus en plus de particuliers se saisissent de cet outil, par exemple, au moment de vendre leurs biens, comme ici dans le nord de l'Isère, Rémi.
C'est une maison au bout d'une allée dans ce hameau de Gilonnet avec 2 hectares de terrain et 4 chevaux.
C'est ma jument qui s'impatiente et qui aimerait participer à l'interview. Allez,
même si elle n'est plus propriétaire ici, Claire Jeudy, fonctionnaire territoriale, y a laissé sa jument en pension. Au moment de vendre il y a 3 ans, elle a posé ses conditions. Ne pas couper par exemple les plus de 500 arbres et les haies qu'elle a plantées.
C'était pas envisageable d'abandonner en quelque sorte cette propriété au risque de voir finalement peut-être détruit ce que j'avais eu du cœur à restaurer et que je souhaitais préserver. J'ai vu des renards, des chevreuils, des lièvres, j'en oublie plein, et puis beaucoup, beaucoup d'oiseaux.
Alors interdiction de construire davantage, c'est ce qu'indique l'ORE, l'obligation réelle environnementale, qui protège le site pour 99 ans.
Jusqu'en 2121. C'était assez vertigineux et assez grisant de me dire voilà, cette biodiversité, elle me survivra, quels que soient les propriétaires suivants.
Simon Bola, pompier, et sa compagne ont dû la signer pour s'installer avec leurs chevaux.
C'est déjà une grande étape d'acheter un bien, je pense. Mais en plus, avec une ORE dessus, ça pouvait être impressionnant. Et puis finalement, ça correspondait vraiment à nos valeurs, des valeurs écologiques, des valeurs environnementales. C'est venu naturellement.
Des critères bien loin des envies de certains acquéreurs, raconte Claire.
Du coup, les personnes qui n'étaient pas du tout dans cette démarche-là, qui sont arrivées en disant « on va couper tous ces arbres, on va faire une immense piscine », eh ben, d'office, elles ont été écartées.
Et pour s'assurer que ce contrat est respecté, il y a toujours un troisième signataire, souvent une association. Ici, la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux.
Nous, on est le garant du respect de ces engagements.
Jean Deschâtre, bénévole, spécialiste des ORE, est déjà venu vérifier que le site est bien entretenu, comme sur 13 autres terrains en Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 2018, première ORE, il y a un vrai intérêt. J'ai eu 50 demandes. Actuellement, j'en ai presque une chaque semaine.
Un dispositif créé par la loi biodiversité en 2016 et encore méconnu, même, dit-il, des notaires.
Et Rémi, l'ORE permet de protéger des zones plus vastes quand les pouvoirs publics n'agissent pas.
Empruntons par exemple en voiture ce chemin forestier à 15 minutes plus au nord dans le massif de Bonnevaux.
On se rend à l'étang du Grand Albert qui fait 17 hectares en eau.
Myriam Le Noël, médecin retraité, a hérité avec un frère et une tante ici de ce vaste étang.
On passe par le petit sentier là.
Oui. Il est désormais protégé par une ORE signée en 2018.
Par exemple, je vous montre là-bas en face, il y a une butte à castor pour accueillir et protéger le castor. Tous les aménagements qui sont faits doivent être respectés. C'est inscrit dans le marbre.
C'est quand la digue de cet étang de pêche et de loisirs cède en 2008 que la LPO conseille à la famille de le rebâtir.
On a pris conscience de l'importance de ce site sur le plan environnemental, du fait que les zones humides en France sont particulièrement menacées, et dans le monde. Donc nous, on était là, propriétaires d'une immense zone humide. Quand on a vu que c'était compliqué de faire soit une réserve naturelle régionale, soit un espace naturel sensible, enfin, tous les labels qu'on pouvait mettre sur ce site, on s'est dit, il faut qu'on fasse par nous-mêmes. Et au Grand Albert, on a donc choisi d'appliquer l'ORE pendant 99 ans. Si quelqu'un vient couper un arbre, il contrevient à cette ORE, et je pense qu'il peut être effectivement inquiété.
Une 60aine de contrats de ce type a été signée entre 2022 et 2024, un nombre probablement sous-estimé, des dispositifs qui permettent à tous d'agir pour Jean Deschâtre.
Dans la loi de 2016, il est indiqué que les individus ont un devoir de protection de la biodiversité. Cet instrument est un des moyens de remplir ses devoirs du citoyen.
Pour la LPO, il faudrait renforcer les avantages fiscaux du dispositif quasiment inexistant aujourd'hui pour le rendre attractif.
Une biodiversité quand les particuliers investissent dans les zones à défendre. C'était le zoom de Rémi Brancato à réécouter sur le site de Radio France.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Il est 6h moins le quart, c'est l'heure de contacter notre invité déjà debout, fabricant d'articles culinaires haut de gamme. Bonjour Damien Dodane.
Bonjour.
Vous êtes originaire
Vous
êtes originaire du Doubs et vous dirigez donc Christelle, qui est une entreprise spécialisée dans ces articles. Alors ce sont des poêles, des casseroles, des cocottes en inox surtout. Vous participez en ce moment au salon Syra à Lyon, un grand événement du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Oui. Question traditionnelle pour commencer, pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout ?
Alors, je suis déjà debout parce que je suis un lève-tôt. J'ai l'habitude de me lever tôt. C'est le moment que je prends en général pour moi. Ça me permet de prendre le temps justement de démarrer la journée dans un rythme qui est un peu moins soutenu que le reste de la journée. Voilà.
Une façon de se mettre en route en quelque sorte.
Tout à fait.
Ouais. Racontez-nous l'histoire de Christelle. Ça remonte aux années 80.
Alors oui, en fait, Christelle et nous travaillons dans une usine qui va fêter ses 200 ans en 2026. Cette usine appartenait à l'empire industriel Japy, qui a été un des plus gros groupes industriels de la fin du 19e siècle. C'est même un des précurseurs de l'industrialisation en France. Et qui a fermé, qui a fait banqueroute en 1979. En 1983, les ouvriers qui n'avaient pas retrouvé de travail ont décidé de créer une SCOP pour essayer de
société faire coopérative. Perdurer leur,
une, voilà, tout à fait. Et les autorités politiques du pays de Montbéliard, dans lequel nous sommes installés, ont demandé à ma maman qui donnait des cours de gestion aux jeunes chefs d'entreprise si elle voulait bien les aider pour leur apporter tous les éléments de gestion, etc. C'est comme ça que mes parents sont rentrés dans l'entreprise. On repris l'entreprise en 1986 et Christelle est devenue une entreprise familiale. Nous sommes aujourd'hui trois générations à travailler d'arrache-pied pour continuer à développer cette marque qui aujourd'hui est un fleuron dans l'art du culinaire. Effectivement, nous sommes numéro un en France.
Et aujourd'hui, ça marche bien. 105 salariés, dont 70 en production. C'est du Made in France.
C'est du Made in France, c'est de l'origine France garantie. Nos collections sont effectivement certifiées et nous avons la chance aussi d'avoir le label Entreprise du patrimoine vivant et nous sommes entreprise à mission depuis 2021.
Ce qui signifie
que nous avons inscrit dans nos statuts les valeurs de l'entreprise sur lesquelles on compte bien pouvoir continuer à développer notre entreprise avec des valeurs environnementales mais des valeurs aussi humaines sur le développement du bien-être de nos collaborateurs au sein de notre entreprise. C'est très important pour nous.
Alors c'est intéressant que vous me parliez d'environnement parce qu'il y a eu encore hier des révélations sur les PFAS. Vous savez, ces composants, ces produits chimiques en fait qui se retrouvent dans la nature, ces polluants éternels comme on dit, qui ont été détectés notamment dans les robinets. C'est des polluants qu'on trouve par exemple dans les revêtements des poêles, les revêtements anti-adhésifs. Ça joue en votre faveur parce que vous produisez en fait pour la plupart des produits sans ce genre de revêtements.
Oui, tout à fait. L'inox, c'est la seule véritable alternative à tout ce qui est PFAS, puisqu'il suffit d'une petite technique très simple, la technique de la goutte d'eau, de manière à monter la température de la poêle pour qu'on puisse cuisiner, même sans graisse, des viandes et des légumes, même des poissons, quelquefois, suivant le taux de graisse qu'il y a dans le poisson. L'anti-adhésif, effectivement, a apporté un certain confort aux gens
pratique.
C'est pratique, c'est soi-disant plus facile à nettoyer. Mais bon, voilà, mais pour le corps, pour la santé, c'est sûr que la seule alternative aujourd'hui, c'est l'inox, c'est le matériau le plus stable à la cuisson, et donc qui permet de n'avoir aucun échange entre le contenant et le contenu pendant la cuisson.
Damien Dodane, une autre question d'actualité, vous exportez dans le monde, alors vous travaillez aussi avec Top Chef, l'émission culinaire, mais vous exportez dans le monde au Japon, et aussi aux États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet d'une éventuelle guerre commerciale qui se mettrait en place avec les États-Unis de Donald Trump ?
Écoutez, oui, ça ne me rassure pas, hein, ça c'est sûr. La situation est très tendue et c'est vrai que si aujourd'hui On nous affuble de taxes qui sont très élevées. On va avoir du mal à vendre sur un marché qui est quand même un marché de prix. D'abord, c'est un marché très important pour nous, parce que c'est aussi un marché sur lequel se développent toutes les nouvelles techniques de marketing, e-commerce, etc. Et donc, c'était important pour nous d'essayer de s'y installer. Mais c'est vrai qu'avec des taxes de plus, ce qu'on nous annonce, de 25%, etc., bon, ça va être compliqué. Hein.
Ça risque de peser, mais en tout cas, pour l'instant, vous marchez bien. Et donc, vous êtes au Salon Lyonnais, oui, qui est de l'hôtellerie-restauration. Merci, Damien Dodane, directeur de Christel, fabricant d'articles culinaires haut de gamme dans le Doubs. Merci d'avoir été sur France Inter. 5h51, quand on envoie un SMS, on peut y mettre un SMS ou un message, on peut y mettre des petits logos, des petits personnages. Question sur ces emojis dans les petits bateaux de Camille Cronier.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, sortez les téléphones!
Bonjour les petits bateaux, je m'appelle Robin, j'ai 14 ans et je voulais savoir qui valide les emojis. Merci.
Robin qui pose tranquille sa question à bord d'une voiture, si mon oreille a bien identifié ce petit fond sonore. David Groison, vous êtes journaliste, auteur d'une super BD sur le sujet, La Révolution Emoji, chez Bayard. Alors, qui les valide? Qui les choisit?
Eh ben, c'est une commission. C'est une commission, c'est un consortium qui s'appelle Unicode. Et c'est une commission composée de 18 membres en Californie. C'est assez difficile, c'est assez mystérieux en fait. On ne peut pas y pénétrer.
C'est genre commission secrète,
quoi. C'est pas secret parce qu'on sait qui y siège. En fait, il y a 18 personnes qui y siègent. Et ils représentent chacun. Ils payent 50 000 dollars pour en faire partie. Et donc, il y a quelqu'un de chez Apple, quelqu'un de chez Google, de chez Facebook, du chinois Huawei. Leur but, c'est d'unifier tous les codes informatiques de la planète. Et donc, ils se sont emparés des emojis pour se dire, c'est important que partout sur la planète, si j'envoie un tigre, les autres vont recevoir un tigre aussi. Et effectivement, au début, en fait, c'était pas le cas, quand le consortium s'en était pas occupé. Et du coup, il y avait plein de quiproquos et d'envois qui étaient faux.
Donc, ce sont ces 18 personnes-là qui décident quoi? Tous les ans, tous les combien, quels emojis vont être
tous les ans,
tous les ans, ils se réunissent.
Ils font une réunion.
Alors, qu'est-ce qu'on... Un peu comme l'Académie française, qu'est-ce qu'on met dans le dictionnaire là? C'est qu'est-ce qu'on met dans les téléphones?
Exactement.
Comme
Mais par contre, par rapport à l'Académie française, ce qui est génial, c'est qu'on peut tous proposer des emojis. On peut tous envoyer des dossiers pour proposer son propre emoji. Alors, il y a des règles à respecter. Il faut qu'on prouve dans notre dossier que, en fait, les gens réclame à corps et à cri cet emoji. Il faut qu'il soit compréhensible même en toute petite taille, parce qu'effectivement, les emojis commencent à être tout petits, il faut que le dessin, on puisse le comprendre. Il ne faut pas que ce soit de la pub. Il y a Nestlé, par exemple, qui a essayé de déposer l'emoji KitKat, et ils avaient dit, non, ça, on ne le veut pas. Ça ne peut pas être une célébrité, même si chaque année, en fait, il y a Justin Bieber qui est proposé comme emoji.
Et ça ne peut pas être un super-héros, genre Batman, il n'existe pas en emoji?
Non, on ne peut pas. On ne peut pas avoir non plus de divinité. Jésus, on ne peut pas. Des marques comme les Jeux Olympiques, comme c'est déposé, en fait, il n'y a pas les anneaux des Jeux Olympiques. Donc, l'été dernier, à Paris, on a bien vu, quand on voulait parler des JO, on
ne
pouvait pas avoir les anneaux. Et puis, il faut que l'emoji résiste au temps. Il faut qu'on puisse se dire, dans 20 ans, dans 30 ans, cet emoji, il aura encore du sens. Donc, c'est ça.
Et alors, combien d'emojis rentrent à peu près par an? Il y a une moyenne, hein?
Alors, il y a eu un moment où il y avait énormément d'emojis qui sont rentrés, parce qu'il y a eu un moment, il y a une jeune femme, Flory Hutchinson, qui s'est dit, c'est quand même dingue. En fait, comme représentation de la femme dans les emojis, il y avait, au milieu des années 2010, 2015...
Il y avait quoi? Une princesse?
Il y avait la princesse, la robe de mariée, deux petites danseuses avec des oreilles de lapin, et la danseuse de flamenco, et c'est tout.
Très limitatif,
c'est
limité.
Ouais. Voilà, exactement. Et donc, elle s'est dit, moi, je vais proposer plein d'autres emojis, plus divers, etc. Et effectivement, ça a explosé à ce moment-là. C'est-à-dire que d'un coup, ces emojis ont été acceptés. D'autres emojis ont été acceptés aussi avec d'autres couleurs de peau, avec plein de genres différents, etc. Et donc là, ça a été des périodes où on a accepté plus de 100, 200, 300 emojis par an. Aujourd'hui, on a près de plus de 4000. Mais là, par exemple, en 2025, on va accepter une dizaine d'emojis. Il va y avoir une harpe, un radis, un smiley avec des poches sous les yeux pour dire qu'on est vraiment très très fatigué et une tache d'encre.
Plus un arbre sans feuilles, une pelle, des empreintes digitales et le drapeau d'une île britannique. Salut les matelots!
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli France Inter.
Et salut Camille Cronier, rendez-vous après 20h.
France Inter. Le Le 5-6.
Et c'est l'heure ce matin d'aborder un sujet universel autour d'un café philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Sujet universel s'il en est, puisqu'on parle de l'amour filial en l'occurrence, celui qui nous lie donc à nos mères. Puisque l'un de vos invités ce soir, le philosophe Maxime Rovert, publie un essai intitulé « Parler avec sa mère ».
Alors, il s'agit d'une relation spécifique hein, et d'une incroyable ambivalence, au point qu'on peut se demander s'il y a quelque chose de rationnel dans ce lien. On aime sa mère, on la déteste aussi parfois, on fusionne, on se fâche, on ne se supporte que par intermittence. Figurez-vous que la philosophie permet de faire tenir ensemble toutes ces contradictions. Ah. Ouais. Je tenais à vous faire écouter le merveilleux Romain Gary, auteur de La promesse de l'aube, un livre sur son enfance, et celui-là, sur la promesse qu'il avait faite à Mina, sa mère russe, fervente, idéaliste, qui souhaitait qu'il réalise tout ce qu'elle attendait de lui.
Il avait un seul trait de caractère, c'était moi. C'est-à-dire que toute sa personnalité, il m'a eu assez tard dans la vie, il devait avoir dans 35 ans, toute sa personnalité s'était cristallisée sur moi. Elle avait eu une vie d'échec, et pour elle, j'apportais une promesse de triomphe, comme elle le disait. Et elle s'est donc attachée à m'élever dans des conditions très difficiles. Pendant la révolution en Russie d'abord, l'émigration en Pologne ensuite, et en France. En gagnant, c'était une femme seule, sans mari, je n'avais pas de père, et elle gagnait sa vie de mille façons. Elle avait ouvert une pension, elle faisait de la restauration, elle était devenue hôtelière. Elle avait des vitrines de bijoux dans les grands hôtels qu'elle essayait de vendre. Tout ça se débattant entre des dettes, l'usure, les prêts à gages, et avec une détermination absolue de gagner, en ce sens qu'elle voulait par-dessus tout assurer mon éducation. Et comme elle disait à l'époque, que tu deviennes un homme et que tu deviennes quelqu'un. Et c'était la force dominante de sa vie et aussi sa force et sa source de force, tout court, puisque vraiment c'est une femme qui ne connaissait pas d'obstacles et qui ne connaissait pas de résignation. Sa dernière lettre que j'ai publiée dans l'édition américaine en fin du livre, qui était quelques mots griffonnés au crayon, qui me disait « sois dur, sois fort, et continue », c'était souligné.
L'écrivain Romain Gary, elle avait un seul trait de caractère, c'était moi. C'est incroyable,
incroyable de dire ça.
Ouais. Ouais, incroyable d'entendre ça. Parler avec sa mère, ce sera donc le sujet, vaste sujet de l'heure philo ce soir vers 20h10, Patricia. Maxime Rovert donc, sera votre invité. Son livre est publié chez Flammarion, ainsi qu'avec lui Fatima Wassak pour un essai sans concession, La puissance des mères. C'est aux éditions La Découverte. Merci, à ce soir.
À ce soir, chère Marion.
Il ne semble pas qu'on sache suffisamment. Il faut qu'on sache.
Ce lundi, France Inter commémore le 80e anniversaire de la libération des camps de concentration.
Philippe Collin.
En direct du mémorial de la Shoah à Paris, une soirée pour se souvenir, avec le récit des derniers témoins et l'éclairage de nos historiens.
Mais tous ont une seule volonté, tant qu'ils vivront, c'est de parler de ce qu'a été Auschwitz. Pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz.
Les derniers témoins.
C'est ce lundi sur Inter, après les informations de 20h.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Et bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Marion, bonjour Ali.
Bonjour.
Il est déjà là. Ça va souffler aujourd'hui.
Oui, coup de vent en marge de la tempête Eowyn présente sur les îles britanniques. Un coup de vent qu'on va sentir quasiment partout. Les plus fortes rafales seront pour les côtes de la Manche, la pointe bretonne, hein, jusqu'à 80-100 km à l'heure. On surveillera surtout les forts cumuls de pluie que cette perturbation pourra porter sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie. Des averses, on en a déjà ce matin sur la pointe bretonne, le Cotentin. Elles vont gagner toutes les régions jusqu'aux Hauts-de-France, peut-être déjà un petit peu en Île-de-France. On les retrouvera cette après-midi sur une large moitié nord, à part sur le nord-est qui va rester au sec. Pour les autres, beaucoup de nuages, là aussi du vent, encore un ciel voilé sur le quart sud-est et du beau temps pour la Corse. Les températures assez douces sur l'ouest ce matin, plus fraîches sur l'est cet après-midi. Ce sera doux partout et en hausse, 10 à 20 degrés du nord au sud.
Merci Céline.